Bienvenue à l'émission qui déclare la race souveraine et éternelle de Dieu en Jésus-Christ. L'évangile glorieux du Seigneur Jésus-Christ et son œuvre accomplie à la croix pour les pécheurs que Dieu le Père a ordonné à ce salut, puisqu'il nous accordait des oreilles pour entendre les attributs glorieux de Jésus-Christ à travers ce message tiré de sa parole inspirée.
Aujourd'hui, je voudrais traverser avec vous une étude dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 7. Et je voudrais vous parler de la manière qu'un pécheur est affranchi de la loi de Dieu. Nous savons que Dieu est juste, Dieu est saint, et c'est pour cela qu'il doit condamner le pécheur. Non seulement le péché, mais le pécheur. Il y en a qui disent que Dieu aime le pécheur, mais qu'il déteste, il hait le péché. Mais nous ne pouvons pas séparer les deux. Nous sommes pécheurs parce que nous avons en nous, dans notre nature, le péché que nous avons hérité de notre père Adam, le premier homme créé par Dieu. Alors, la question se pose donc, comment être affranchi de la loi de Dieu qui nous condamne? Et tel est le sujet de cet épître de Paul aux Romains, dans Romains chapitre 7. Je vais lire d'abord du verset 1 au verset 6, et puis faire quelques commentaires là-dessus avant de continuer sur la prochaine partie. Donc, Romains chapitre 7 et le verset 1. Ignorez-vous, frères, que je parle à des gens qui connaissaient la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Alors vous voyez, à plusieurs reprises, Paul écrit ses paroles inspirées pour démontrer de quelle manière un pécheur est affranchi de la loi, ou bien comme il a dit, être dégagé de la loi, dans le verset 6. Dieu est juste et saint. Il ne peut pas simplement mettre de côté sa loi. C'est nécessaire pour qu'un pécheur soit affranchi de la loi, que cette loi soit satisfaite. Alors, comment est-ce que Dieu peut être juste tout en déclarant juste ceux qui sont condamnés par la loi? Ici, dans le verset 4, l'apôtre Paul a écrit de même, mes frères, vous aussi, vous avez été, notés par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi. Quand il parle là du corps de Christ, il est en train de parler du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à l'égard de ces pécheurs que Dieu le Père lui a donné, et cela depuis l'éternité. C'est pour ça que nous avons au début de ce chapitre cette illustration du mariage. Parce qu'aussi longtemps que quelqu'un est marié et le mari vit, alors la femme ne peut pas être liée à un autre. Autrement, la femme serait devenue adultère. Mais lorsque son mari meurt, comme c'est écrit dans le verset 2, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Alors, en voyant cela, on peut se poser la question, donc, qui était notre mari spirituellement? Et on peut dire que ce mari n'était autre que Adam. Et la condamnation dans laquelle nous vivions jusqu'à ce que Christ soit venu et qu'il a donné sa vie pour ce peuple, cette femme que Dieu le Père lui a donnée. Et ayant satisfait toute la loi de Dieu et ayant donné sa vie en sacrifice pour le pardon des péchés de cette femme que le Père lui a donné. Donc, dans cette mort, le premier mari est mort. Il s'agit là de l'ancienne alliance, ce qu'on appelle la loi. Une fois satisfaite, c'est comme si la loi est morte maintenant. Et puisque cette loi n'a plus de pouvoir contre cette femme, alors, cette femme pour qui Christ est mort est attachée maintenant à un nouveau mari. Voilà l'exemple que nous avons décrit ici concernant la manière que Dieu lui-même délivre et sauve des pécheurs de la condamnation de la loi héritée de notre père Adam. Mais puisque Christ est venu et il a satisfait cette loi dans tous ses aspects, ce n'est pas seulement la lettre de la loi, mais l'esprit de la loi. Dans chaque aspect, cette loi maintenant est satisfaite, parce que Christ a accompli parfaitement toutes les exigences de la loi par son obéissance. Mais puisque dans la loi, il y a les préceptes auxquels il a obéi, mais il y a aussi la punition, la pénalité qui devait être aussi satisfaite pour que Dieu soit juste tout en justifiant les pécheurs pour qui Christ est mort. Et ayant maintenant fidèlement accompli cette loi à la satisfaction de Dieu lui-même, donc, il ne reste plus maintenant que la liberté. Cette loi ne peut plus condamner les pécheurs que Christ est venu sauver. C'est pourquoi, dans le verset 4, c'est écrit « Pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts. » Si quelqu'un est ressuscité des morts, cela veut dire qu'il est d'abord mort. C'est ce que la loi exigeait. Que celui qui pêche méritait la mort. Donc Christ a tout satisfait et sa résurrection des morts est la preuve que Dieu le Père est satisfait. Et donc, il ne reste que de porter des fruits pour Dieu. Vous voyez ça à la fin du verset 4, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Ce fruit n'est pas quelque chose que nous produisons. Si Christ est mort pour nous, donc c'est l'Esprit de la grâce de Dieu qui vient au moment voulu par Dieu et il nous régénère. Et cette régénération, c'est le fruit de l'œuvre de Christ qu'il a accomplie à la croix. Nous bénéficions de la résurrection de Christ, de la mort, en recevant de lui cette vie éternelle qu'il a procurée par sa mort. C'est comme la fécondité de la vigne et le produit de l'union à ses racines. C'est ainsi que les fruits de l'œuvre de Christ que nous portons, c'est l'effet de ce qu'il a accompli à la croix. Que ça soit la grâce, que ça soit le pardon de Dieu, que ça soit la justification, notre sanctification, tous ces fruits sont l'effet de ce que Christ a accompli à la croix. C'est cette œuvre de Christ qui fait la distinction entre ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Lorsque Paul écrit dans le verset 5, car lorsque nous étions dans la chair, il parle là de cet état avant la conversion. Les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un entend prêcher la loi de Dieu, il se sent condamné par cette loi, parce que la loi ne peut que condamner le péché. Donc, par la révélation de cette loi, la loi provoquait les passions des péchés dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Il suffit de dire à un enfant de ne pas toucher quelque chose, et déjà cette loi provoque dans la pensée de cet enfant le désir de toucher ce qui est interdit. Telle est la nature que nous avons en nous-mêmes. C'est pour nous montrer que la loi en elle-même, quoique bonne, ne peut jamais tourner le cœur vers le bien. C'est seulement l'Esprit de Dieu et de la grâce de Dieu qui fait cela. Donc Paul dit, mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Là encore, dégagés depuis la mort du Seigneur Jésus-Christ. Donc la loi ne peut plus condamner ceux pour qui Christ est mort. Parce que c'est écrit, étant mort à cette loi sous laquelle nous étions retenus, jusque ce que Christ est venu et donné sa vie en sacrifice pour le péché de ce peuple que le Père lui a donné, ce peuple était sous la condamnation de la loi. Mais lorsque c'est écrit, étant mort à cette loi, cela veut dire Christ ayant satisfait tout ce qui était nécessaire pour que Dieu soit juste, tout en justifiant les pécheurs que le Père lui a donné, alors dans la mort de Christ, cette loi aussi est morte. Et nous étions morts aussi dans la mort de Christ à cette loi sous laquelle nous étions retenus. De sorte que, le verset 6 dit, nous servons dans un esprit nouveau. Ça, c'est l'esprit de la grâce de Dieu qui anime les pécheurs que Christ a rachetés par son sang. Il y en a qui vivent encore dans les ténèbres, parce que personne ne peut venir à Christ si ce n'est le Père qui l'attire. Et nous savons, selon les paroles que le Seigneur Jésus a adressées à Nicodème dans Jean chapitre 3, et les versets 3 et les versets 8, que l'Esprit de Dieu est souverain en agissant dans les cœurs des pécheurs pour qui Christ est mort. Ce n'est pas selon la volonté de l'homme que le pécheur peut venir à Christ. Ce n'est pas selon la volonté de l'homme que le pécheur, par ses œuvres, peut se débarrasser de la loi. Non, la loi condamne toujours les efforts humains parce que la loi exige une obéissance parfaite. Et voilà ce que l'homme ne peut jamais fournir. Mais il arrive un temps où l'Esprit de Dieu agit dans sa puissance et dans sa grâce, dans les cœurs de ceux pour qui Christ a payé la dette. Et c'est pourquoi dans Jean 3 et verset 3, nous lisons, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, voir spirituellement. Naître de nouveau veut dire naître d'en haut. Mais il n'est pas en train de dire à Nicodème quelque chose que Nicodème a à faire, parce que dans la naissance physique, ce n'est pas le bébé qui fait quelque chose. L'enfant est conçu dans le sein de sa maman selon la semence de son père et l'union du père et la mère, mais la décision ne dépend pas de l'enfant. Et c'est ainsi spirituellement. La décision dépend de Dieu le Père qui agit dans le cœur par son esprit, et ainsi la vie est donnée. C'est pourquoi dans le verset 8, c'est écrit, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Alors revenons dans notre texte, dans Romains chapitre 7, et lisons la prochaine partie du verset 7 au verset 13. Paul écrit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifesta comme péché en moi, donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Il n'y a pas d'autre moyen à arriver à la connaissance du péché nécessaire à la repentance et recevoir la paix de Dieu dans son cœur à cause du pardon que Christ a pu obtenir pour son peuple à la croix. Il n'y a pas de moyen d'arriver à cette connaissance du péché qu'à travers l'œuvre de l'Esprit dans nos cœurs. C'est de ça que Paul écrit ici lorsqu'il parle du fait que il était sous la loi, c'est-à-dire lui-même par ses efforts, il cherchait à obéir à la loi, imaginant qu'il était en train d'obéir d'une manière à plaire à Dieu. Mais jusqu'à ce que le commandement, comme il dit dans le verset 10, qui conduit à la vie, se trouva pour moi conduire à la mort. Ce commandement qui conduit à la vie, c'est comme une flèche de l'esprit que Dieu maintenant lance dans le cœur d'un pécheur racheté. Et c'est à ce moment-là que ce pécheur aperçoit que cette loi dont il imaginait qu'il était en train de suivre, obéir, le condamnait. Il voit dans sa personne et dans son cœur sa condamnation face à la loi. Il ne peut plus dire à partir de ce moment qu'il est obéissant à la loi. Au contraire, cette loi le condamne, et c'est pourquoi il dit dans le verset 11, « Le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. » Le Seigneur Jésus lui-même a dit que personne ne pouvait le suivre et être son disciple s'il ne renonçait à soi-même. Et je dois vous dire que voilà ce que le pécheur ne peut pas faire sans que l'Esprit de la grâce de Dieu n'agisse en lui. Nous sommes orgueilleux, nous sommes aveugles. Nous imaginons que par nos mérites et notre obéissance à la loi, que nous gagnons la faveur de Dieu. Mais lorsque le commandement vient, alors ce commandement qui conduit à la vie, ce n'est pas pour notre destruction, mais cette flèche qui fait mourir notre propre opinion de soi, ça tue le moi en moi. C'est afin de nous conduire maintenant à la vie. Cela veut dire de nous donner des yeux maintenant pour le Seigneur Jésus-Christ. La loi seule ne peut pas emmener les pécheurs à Christ. La loi ne peut condamner, mais c'est l'Esprit de Dieu qui emmène à Christ. Et lorsque l'Esprit ouvre les yeux du pécheur pour contempler sa condamnation face à la loi, c'est à ce moment-là que le pécheur meurt à lui-même, mais il vit en ce qui concerne Christ. Il est rendu à la vie en ce qui concerne le Seigneur Jésus, et voyant son état de perdition, maintenant, l'Esprit tourne ses regards vers Christ. Voilà ce que Paul décrit là, cette expérience. Et je dois dire que c'est l'expérience de tous ceux qui sont enfants de Dieu. Ceux pour qui Christ a payé leur dette. À un moment donné, l'Esprit de Dieu ouvre leur cœur et ils voient leur condamnation face à la loi de Dieu. Et ils voient que il n'y a rien de bon en eux. La loi est sainte. Et le commandement est saint, juste et bon. Mais où est le problème? C'est avec l'homme. C'est l'homme qui ne peut pas obéir à cette loi. C'est pourquoi c'était nécessaire que le Seigneur Jésus lui-même vienne pour accomplir cette loi pour les pécheurs que le Père lui a donnés. Maintenant, finissons ce chapitre 7. C'est écrit dans le verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Paul est en train de parler ici en tant que croyant, un pécheur régénéré. Le fait d'être régénéré ne nous fait pas sortir de cette chair qui est toujours en nous. La chair est toujours la chair, et c'est l'esprit qui est l'esprit. Donc il dit, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alors nous voyons la seule solution, mais pas en nous, mais c'est dans le Seigneur Jésus-Christ et dans l'œuvre qu'il a accomplie à l'égard des pécheurs tels que nous sommes. On pouvait dire alors, c'est Christ qui est notre espoir. Paul le dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ce n'est pas par nos efforts. Les créatures déchues tombent parce qu'elles sont déchues. Nous tombons parce que nous sommes des êtres déchus. Nous péchons parce que nous sommes des pécheurs. La prochaine fois donc que vous aurez comme Paul l'impression que le monde s'effondre sur vous, puisse l'Éternel vous permettre de vous rappeler ceci. Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains chapitre 8 et le verset 18. C'est Dieu lui-même qui cause ces souffrances et il continue à nous montrer notre état de péché afin de détourner nos yeux de ce monde mais aussi de notre chair. Que nous ne mettions jamais notre confiance dans la chair. Il nous pousse ainsi à regarder uniquement au Seigneur Jésus. Dans Romains chapitre 8, le verset 22, il dit, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Il dit, « Jusqu'à ce jour, c'est-à-dire de nos jours. » Il y a certes plusieurs milliers d'années que Paul a écrit ces mots, mais c'est la vérité, et c'est encore d'actualité. En effet, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ce n'est pas elle seulement, il dit dans Romains 8, 23, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Vous voyez, c'est grâce à l'Esprit de Dieu que nous avons une autre vision de la vie, de ce monde et de nous-mêmes. L'Esprit nous pousse à ne mettre aucune confiance dans cette chair et à n'y avoir aucun bien. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est la lumière de l'Esprit, et cette lumière, c'est Christ. Il dit dans Romains chapitre 8, et le verset 23 à 25, « Mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous attendons donc le nouveau ciel et la nouvelle terre comme faisant partie de cet héritage, de cette gloire acquise par Christ pour son peuple. Cette attente n'est pas comme celle de ceux qui n'ont aucun espoir, mais pour nous, c'est avec grand espoir que nous attendons, et cet espoir, c'est Christ. C'est pourquoi la réponse à cette déclaration de Paul dans Romains 8, 24, « Misérable que je suis, oui, tel est mon état dans le corps. Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. »
Vous venez d'écouter un message qui vous a été présenté par Ken Wymer, prédicateur de l'Évangile de la grâce de Dieu aux États-Unis. Pour plus d'informations sur le message ou d'autres renseignements, veuillez visiter notre site sur l'internet www.shrevegrace.com. O-R-G.